En Bandaka, sur Choukro.
À l'Équateur, ouverture jeudi à Mbandaka d'un séminaire atelier de 3 jours sur la grippe aviaire. L'objectif est de mettre sur pied un réseau provincial de surveillance de la grippe aviaire à l'Équateur. À l'initiative de la FAO, une vingtaine de vétérinaires venus de tous les districts de la province suivent ces enseignements. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre provincial de l'Agriculture en présence des responsables des agences de l'ONU implantées à Mbandaka. Paul-Richard Malengela, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, J.R.
Alors tout d'abord, la peste aviaire est-elle une réalité à l'Équateur?
J.R., sans perdre de contredit, je dirais non. Selon les médecins, aucun cas n'a encore été signalé dans la province. Mais tout le monde se rappelle les menaces que présente cette maladie des oiseaux sauvages, comme de la volaille, sur le plan planétaire. Une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme et vice-versa. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, craint que la grippe aviaire, si elle s'humanisait, puisse évoluer d'une pandémie en une pandémie susceptible de tuer jusqu'à 100 millions de personnes parmi plusieurs milliards de malades. C'est pourquoi, lors de la clôture des travaux de samedi dernier, le ministre provincial de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Élevage, Dominique Mbongui, n'a pas manqué de soulever l'inquiétude de l'autorité sur la santé publique.
En nous référant aux facteurs de risque, nos provinces sont bel et bien menacées par l'apparition de foyers de la maladie si l'on y prend garde. En effet, faudrait-il citer ici les importations massives de volailles et de leurs produits ou encore le flux migratoire des oiseaux venus de l'Europe et de l'Asie qui envahissent nos contrées à certaines périodes. L'on ne peut passer sous silence le mode traditionnel d'élevage en divagation chez nous qui augmente le risque de contamination des volailles et de notre population face à des maladies comme la grippe aviaire. Ainsi, nous croyons fermement que l'accomplissement d'un travail d'épidémio-surveillance bien fait est un moyen d'éloigner à coup sûr l'introduction du virus H5N1 dans notre province.
Voilà. Alors, Paul-Richard, comment s'explique l'implication de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation?
Il faut dire que pour les mêmes risques dont nous venons de parler hier, la FAO a décidé de protéger d'abord les éleveurs de l'Équateur et leurs cheptels de volailles en initiant cet atelier. D'autant plus que la province de l'Équateur partage une longue frontière avec 2 pays étrangers, le Congo Brazza et la République centrafricaine, et que sa riche faune peut être favorable au développement de la grippe aviaire. Ajouté à cela, le souci de renforcement des capacités des vétérinaires, ainsi que la mise sur pied d'un réseau de surveillance de cette maladie virale très contagieuse. Le chef de sous-bureau de la FAO Équateur, l'ingénieur Godet Mutombo, explique davantage l'opportunité de l'appui de son institution.
La FAO a compris qu'il fallait en premier lieu mettre en place un système de détection précoce et de prévention, ainsi que mettre en place des connaissances ainsi que des capacités requises. C'est pourquoi organiser cet atelier dont les agents formés auront pour tâche d'assurer la collecte, la réception ainsi la transmission rapide, régulière des informations à partir de la base sur lesquelles certaines dispositions devraient être prises.
Alors, pendant 3 jours, quelle stratégie les experts de la FAO ont-ils apprise aux participants?
Effectivement, hier, la formation a été assurée par un groupe de consultants nationaux et internationaux de la FAO venus de Kinshasa et au total 9 vétérinaires et gardiens de faune venus des 5 districts de la province ont pris part à cet atelier. Ajouté à cela, 5 communicateurs communautaires. Certes, ils ont appris les notions liées à la connaissance de la maladie, les techniques de labo, les mesures biosécuritaires à mettre en œuvre en cas de suspicion, etc. Mais au moment où on parle beaucoup plus de la prévention, un accent particulier a été plutôt mis sur la sensibilisation comme première stratégie. Et c'est ce qu'explique Madame Séraphine Issaméné, consultante nationale et experte en communication parmi les facilitateurs de cette association.
Dans cette lutte, pour ce temps de prévention, c'est la communication qui joue un grand rôle. C'est la sensibilisation qui doit passer devant pour que la population soit informée et sécurisée. Pour ce qui me concerne, j'avais un module qui parlait du rôle de la communication dans la prévention de la grippe aviaire. Et le deuxième module, c'est les stratégies de communication pour la lutte contre la dépasière.
Avec ces notions, quel rôle les réseaux devraient-ils jouer sur les terrains, Paul Richard?
Toujours selon Séraphine Itamene, les membres du réseau disséminés à travers les 5 districts de l'Équateur ont un rôle clair à jouer, celui de signaler. C'est-à-dire, dès qu'ils soupçonnent quelque chose quelque part, ils doivent vite alerter, soit prélever des échantillons et les expédier à l'unité centrale située à Kinshasa pour analyse. Ceci avec possibilité de les référer jusqu'au laboratoire le plus spécialisé. Voilà comment le réseau va fonctionner à JR.
Comment les participants entendent-ils jouer ces rôles? Sont-ils bien préparés à les faire?
Juste à la clôture de cet atelier, nous avons recueilli les impressions de certains participants à ce propos. Suivez-les.
Nous venons de compléter notre formation en matière de la grippe aviaire, savoir comment prélever, prévenir et puis contrer la dissémination du virus qui est très très dangereux. Puis encore, c'est un plus pour nous les vétérinaires.
Comment allez-vous y prendre pour sensibiliser la population?
L'information doit commencer par chez soi et puis ça doit aller de voisin et atteindre le fin fond du pays. C'est un défi, nous devons informer, parce que si nous laissons le monde sous-informé, le jour où la grippe aviaire viendra ici, nous risquons de perdre les 3/4 de la population.
Oui, si les gens, je vais maintenant faire des sensibilisations pour les gens au niveau des quartiers, alors au niveau des villages, au niveau des marchés, à l'église, partout, mais de la radio, pour avoir une bonne sensibilisation. Mais par l'enseignement qu'on va récolter maintenant par les gens, soit les élèves, à partir de cela, on va maintenant faire des recherches pour trouver rapidement la maladie. Je suis le vétéran de la mairie de Guadeloupe.
Voilà, prévenir un danger qui arrive, c'est une bonne chose, mais c'est une condition que les gens n'en fassent pas trop, au risque de pouvoir s'entraîner ou tomber dans une peur, disons, éternelle. Nous en saurons un peu plus avec notre invité, qui est autre que Dr Ernest Yenga, coordinateur national du projet de lutte contre la grippe aviaire au sein de la FAO. Paul Richard, avec vous, enfin, la surveillance requiert un équipement approprié, tant pour la transmission des données ou informations que les tests. La FAO n'a-t-elle pas doté les membres du réseau?
Si, Gilles Lungembo, à la clôture de cette formation, un kit d'outils de labo a été remis à chaque district pour le prélèvement des échantillons. Et compte tenu des risques de contamination du virus H5N1, vecteur de la grippe aviaire, les agents du réseau ont reçu chacun un kit complet de protection personnelle. Il y a notamment une combinaison, un tablier, un masque, ainsi qu'une paire de lunettes, des gants, des bottes et j'en passe. D'où la détermination des agents du réseau à braver les dangers de contamination pour l'intérêt de la communauté. On écoute Marius Bopeko, un agent vétérinaire à l'inspection de l'agriculture, pêche et élevage en Bandaka.
Nous venons d'être outillés de plus par rapport à la formation active à l'école. Nous n'avons pas perdu ce que nous avons maintenant de tenu. Nous avons tout le matériel de prélèvement et de protection. Donc toute la biosécurité est prise en compte. Nous n'avons pas perdu. Et étant donné que nous avons été formés, nous devons aussi protéger la population par rapport à la grippe aviaire dans la pointe de l'Équateur.
C'est une bonne chose parce que par le passé, il fallait prendre un échantillon et envoyer à Kinshasa au laboratoire vétérinaire et attendre 2, voire même 3, 4 mois plus tard pour avoir des résultats. Aujourd'hui, nous pensons que les choses sont faites en un tour des mains et on a vite les résultats. Paul Richard, est-ce que vous avez autre chose à ajouter, un élément particulier par rapport à ce que venait de dire le vétérinaire à l'inspection de l'agriculture?
Pas grand chose, toutefois, nous pourrions dire que le chef du sous-bureau de l'FAO à l'Équateur, quant à lui, on a appelé à une synergie dans l'utilisation de ces outils avec les agences sanitaires ou de l'hygiène, étant donné que la grippe aviaire reste aussi une question de santé publique. Voilà tout, J.R. Lungembo.
Voilà, Paul, on s'arrête là avec vous et on se retrouve très prochainement.
Je vous en prie.
Okapi une voix pour tous, le samedi et le dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa, 10h à 14h, heure de l'Est. On vous propose de réécouter les meilleurs reportages de la semaine, d'offrir une dédicace à un être cher, de découvrir les clubs d'auditeurs de Radio Okapi, de partager la passion des ondes des radios partenaires. Okapi une voix pour tous, à consommer sans modération sur Radio Okapi.
Docteur Ernest Yinga, vous êtes coordonnateur national du projet de lutte contre la grippe aviaire au sein de la FAO. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce qu'on peut dire que ce séminaire a été organisé dans cette partie du pays suite à une menace de la grippe aviaire à Bandaka?
Non, monsieur le journaliste. Avant que je réponde à cette question, je voudrais tout d'abord vous donner l'objectif poursuivi par le projet. Donc le projet ici est un projet qui est financé par la Belgique et puis il est appelé à renforcer les capacités des services vétérinaires impliqués dans la surveillance de la grippe aviaire. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est une série, c'est la dernière série de formation qui a commencé depuis le mois d'octobre. Donc on a commencé cette formation au niveau de Katanga, de Kinshasa et de Kisangani. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a la grippe aviaire ou bien il y a une apparition ou bien une détection. C'est plutôt une préparation à faire face à cette maladie.
Oui, mais parce que se préparer à faire face à cette maladie, c'est une bonne chose. Mais l'inquiétude, c'est que quand l'information est mal faite, les gens se croiront à l'insécurité. Ils parleront déjà de la présence de la grippe aviaire. Et bon, voilà, ce sera la panique totale.
Tout à fait. L'essentiel, c'est d'ailleurs un des objectifs de ce projet, c'est d'anticiper le rhinaire au sein de la population. Donc, le moyen le plus efficace de se prévenir de cette maladie, c'est la sensibilisation. Donc, parmi les objets, les modules qui ont été dispensés, on a formé les agents du terrain en matière de sensibilisation de la grippe aviaire afin d'anticiper le rhinaire. Donc, vous avez peut-être raison. Et si la population de Mbandaka apprenait qu'il y a une formation sur la grippe aviaire, il peut y avoir une mauvaise interprétation. C'est la raison pour laquelle on a demandé aux agents du terrain de bien communiquer, de bien sensibiliser et souvent d'utiliser les réserves pour faire face à cette maladie.
Alors, comptez-vous faire une campagne de sensibilisation de grande envergure afin de pouvoir réellement convaincre la population à se mettre en avant-garde?
Tout à fait, parce que quand on est venu là-bas, on avait double mission quand on est venu à Lubumbashi. On avait une mission de former les agents de surveillance. Une deuxième mission, c'était de procéder à une enquête informative. Donc c'est une enquête qui a pour objectif de collecter les désirats de la population et des éleveurs par rapport à la connaissance de la grippe aviaire. Sauvi de cette, quand on aura à analyser les éléments qu'on aura à récolter sur le terrain, on va concevoir des messages adaptés à nos exigences. Donc, de nos retours, au moment où je vous dis, on est en train d'analyser les résultats de l'enquête pour préparer les messages à diffuser. Et la campagne de sensibilisation officielle, solennelle, est prévue pour le cinquième mois.
Alors, c'est un projet qui concerne l'ensemble du pays, on a comme l'impression. Cela va s'étendre jusqu'à quand concrètement? Et quelles sont les prochaines étapes après Katanga, Kisangani et Mbandaka?
C'est bien ça, c'est bien, la question elle est bonne. Donc, le deuxième objet, comme je l'ai dit, c'est de mettre en place des dispositifs de surveillance qui vont permettre la détection rapide en vue d'une réaction, aussi une intervention rapide. Donc, on a commencé ce projet par identifier les sites à risque et les personnes qui seront appelées à faire la surveillance. Au total, on vient de boucler la série de formations et on a pu former 64 personnes de poste de surveillance, dont 7 concernent la surveillance au niveau des parcs, donc ce qu'on appelle au niveau de la vie faune, et 8 au niveau des postes frontaliers, et 49 agents au niveau des volailles, des élevages. Donc, il y aura une surveillance active. On va commencer, les agents qu'on vient de former là, ils vont commencer à passer dans des élevages pour faire les prélèvements en vue de détecter ce virus, et les prélèvements seront acheminés au laboratoire de Kinshasa, qui est d'ailleurs équipé. Et à ce jour, je vous dis qu'il y a notre laboratoire de Kinshasa, qui est d'envergure même sous le journal, et arriver à détecter les virus H5N1. Donc, c'est le renforcement des capacités qu'on est en train de faire et on vient de boucler la série de formations. Donc, on peut se dire maintenant, à l'étape actuelle, que le pays est capable de détecter à 80% le virus de la grippe aviaire.
Oui. Docteur Ernest Yenga nous rappelle encore que vous êtes le coordinateur national du projet lutte contre la grippe aviaire à la FAO. Alors, est-ce que vous avez à suspecter des cas de grippe aviaire à l'Équateur?
Oui, il y a une fausse alerte, il y a depuis la tour à Bicoro. Il y a eu mortalité de volailles là-bas. Et heureusement, on avait les gens de surveillance qui nous ont envoyé des prélèvements. Et on a constaté qu'après analyse, que c'était la Newcastle. Mmh. C'est une maladie similaire et semblable, apparentée à la grippe aviaire. On était le différencier les deux maladies qui est par les analyses au labo. C'est ce qui a été fait. Donc, à présent, il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'infection de contamination de virus aviaire en RDC. Le pays est indemne. Même en Bandaka, il n'y a pas même l'existence de cette maladie.
Oui, mais pour qu'il y ait tout un réseau de surveillance, c'est qu'on on est tous exposés. Alors, qu'est-ce qui peut être la base d'une grippe aviaire, docteur?
La base, c'est la source, quoi. La source du virus. Cette virus va provenir d'où? Il y a plusieurs sources. La base, c'est la source. Comme on est indemne, est-ce que cette virus va entrer en RDC par quel moyen? C'est à ce niveau que le problème se pose. Sachant la provenance et les sources, les différentes sources de la maladie, on a posté les gens, on a formé les gens et les postés au niveau des sites de risque. Donc ce sont des sites où il y a des points d'eau. Ce sont des là où la surveillance se fera au niveau des oiseaux migrateurs. Et puis on connaît la période des migratoires des oiseaux de l'Europe en RDC. Et c'est à cette période-là, par exemple le mois de juin, de décembre et d'avril, à cette période, on s'est renforcé la surveillance au niveau de la vifaune. Au niveau maintenant des postes frontaliers, là où il y a les entrées de volailles, on a formé les gens des postes de quarantaine animale et végétale pour surveiller et faire des prélèvements afin d'envoyer à Kinshasa. Au niveau des volailles, il se fait que la maladie existe déjà, mais si vous n'avez pas un réseau efficace de surveillance, vous allez connaître des cas de mortalité des poules et des hommes sans le savoir. C'est pourquoi on a demandé, il y a un plan de surveillance qui demande à ce que tous les 6 mois, on mène, que les experts mènent des surveillances au niveau des fermes. Donc on passe dans des fermes pour faire des prélèvements et tester. Mais en plus de cela, les agents qu'on vient de former, et ils vont procéder à la surveillance continue. Donc chaque jour, ça devient leur travail de routine, quoi. Voilà le système qu'on a mis pour un peu d'indiquer, pour empêcher cette maladie d'entrée. Donc, il faut connaître la source et puis surveiller au niveau de ces postes d'entrée.
Oui, ben donc on peut, disons, comprendre que maintenant vous avez les moyens de votre politique, des moyens disponibilisés, disons, aux vétérinaires pour faire ce travail.
Oui, et heureusement, la FAO a intervenu et puis il faut féliciter la Belgique. La FAO, le gouvernement a sollicité les moyens. La Belgique a répondu positivement et la FAO est en train de mettre en place ces systèmes, ces mécanismes de surveillance. Avec ce qu'on a déjà dit, l'équipe formée, les agents de terrain sont maintenant équipés en termes de matériel de prélèvement et de protection individuelle. Au niveau des laboratoires, nous sommes équipés plutôt pour détecter, dépister, diagnostiquer ces maladies. Donc, à l'heure actuelle, ce que je demande, et qui est d'ailleurs notre préoccupation majeure, c'est de faire fonctionner à 80% ces réseaux qu'on vient de mettre, que l'AFAO vient de mettre en place. Il appartient au gouvernement de faire tout pour profiter de cet acquis et faire fonctionner convenablement les réseaux-là, en motivant les agents du terrain, en leur donnant la mobilité. Ça, c'est la contribution que l'AFAO demande au gouvernement.
Est-ce qu'on peut dire que ce système mis en place pourrait, être à l'opposé de cette lenteur qu'on avait souvent observée quant à cette lutte contre la grippe aviaire, notamment en prélevant les échantillons? On accusait un petit retard pour que cela arrive au laboratoire à Kinshasa. Les choses seront faites en un tour de main et puis correctement?
Oui, là. La lutte de cette maladie a une dimension multisectorielle. Nous travaillons en comité multisectoriel. Il y a nos amis, nos partenaires, nos collègues de la santé animale, de la santé humaine, sont un peu plus outillés par rapport aux expéditions de l'échantillon. Donc, nous sommes attendus d'utiliser le réseau PEV qui est outillé, qui est ce réseau se trouve partout dans les districts territoires pour nous aider cette fois ici, avec les agents qu'on vient de mettre en place, à bien canaliser rapidement possible les échantillons que les agents des vétérinaires et de la Vifone auront à prélever et de les faire évacuer si ça passe par les canaux de PEV. C'est ça la collaboration et l'harmonisation au niveau du comité multisectoriel. Donc, avec le système, en collaboration avec les réseaux PEV, on peut arriver à avoir en ayant d'une semaine les résultats des échantillons qu'on aura nous envoyés.
C'est déjà des avancées significatives. Hein?
C'est déjà une avancée significative.
Alors, dites-nous un peu, docteur Ernest, le projet, il est de combien de temps? C'est un échéancier?
Oui, c'est de 2 ans. On est maintenant à la première année. La première année, c'était, on a atteint, en tout cas, à 80%, on a fait à 80% ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire former les gens, mettre les dispositifs de surveillance. La deuxième année qui reste, c'est la période qui sera concentrée beaucoup plus à la surveillance, à la collecte des échantillons, donc à une surveillance active, quoi, aléatoire. Donc, on va passer partout pour prélever en vue d'une détection rapide. Alors, il y a ces 2 ans, comme je vous ai dit, et avec possibilité de l'allonger, de le prolonger sur 3 ans. Donc, c'est 2 ans, avec plus ou moins 1 million d'euros. De la Belgique à disponibiliser. Et puis, il y a aussi 1 milliard additionnel pour les 3e année, si c'est possible.
Oui, parce que d'aucuns ont également une certaine préoccupation. Surtout, nos vétérinaires sont restés figés parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se recycler. Est-ce que vous pensez, quand même, pendant ces 2 années, de pouvoir réellement, comme vous l'avez dit, renforcement des capacités, les envoyer en formation peut-être à l'extérieur?
Je suis content parce que vous comprenez bien de quoi on parle, parce que j'ai parlé du renforcement des capacités. On a formé les gens, il y a un programme de travail, on va commencer à recycler les vétérinaires, pas seulement les agents de surveillance, maintenant les agents qui travaillent dans les services vétérinaires officiels. On a un programme pour les recycler, peut-être, ça dépendra aussi des moyens, mais il y a un programme de recyclage et de formation des agents vétérinaires. Et là, nous demandons au gouvernement aussi de rajeunir le personnel du terrain, parce que, voilà, vous avez compris que c'est un peu vieilli, mais il faut qu'on rajeunisse le personnel, et puis nous allons passer pour faire la formation, afin de remettre à niveau la connaissance sur la maladie. Et je voudrais aussi dire que ce projet ne concerne pas essentiellement, ne concerne pas seulement la grippe aviaire. Ça concerne aussi la surveillance sur les maladies majeures. Donc, comme la peste porcine africaine que vous.
Les bigotis.
Oui, peste porcine africaine et d'autres maladies, la grippe aviaire. Donc, deuxième série de formation sera concentrée aux autres maladies.
Et encore, c'est une bonne nouvelle pour les éleveurs. Ouais. Voilà, donc, docteur Ernest Yenga, nous rappelons que vous êtes coordonnateur national du projet de lutte contre la grippe aviaire au sein de la FAO. Nous allons faire notamment le suivi avec vous très prochainement et à très bientôt.
Je vous remercie pour l'émission.